Vous écoutez Radio X en direct de Grande Allée à Québec. Peut-être la capitale d'un futur pays, hein, Mathieu Bocoté, comment ça va?
Mais pas peut-être, assurément, cher ami, un peu d'optimisme, et par ailleurs, je compte sur ton vote.
Une belle entrée en matière qui n'a aucun rapport avec le sujet qu'on va discuter. Revenons à ce qui s'est passé en France. Et je veux qu'on donne des clés de compréhension parce que souvent, l'actualité internationale nous rebute. On comprend pas les enjeux, on connaît pas les camps, les politiques en place. Est-ce qu'on peut faire d'entrée de jeu un parallèle entre la mort, voire l'assassinat de Quentin Derenck à Lyon et le meurtre de Charlie Kirk aux États-Unis? Est-ce qu'on peut faire des parallèles?
Oui, avec des nuances. C'est-à-dire que Charlie Kirk est une figure publique exposée, une figure qui était connue pour son engagement militant, qui allait sur les campus, qui provoquait la conversation et qui a été assassiné par un antifa qui avait l'objectif explicite de l'assassiner dès le début. Dans le cadre de Quentin, c'est autre chose. On est devant un jeune homme qui accepte, si on comprend bien pour l'instant, de servir, d'aller protéger des jeunes militantes féministes identitaires du groupe Némésis dans le cadre d'une contre-manifestation, dans le cadre contre une conférence à l'Université de Lyon 2 menée par Rima Hassan, une députée LFI qui est accusée par plusieurs d'être islamo-gauchiste et de tenir des propos absolument scandaleux sur Israël. Donc, ce jeune homme accepte de servir de service d'ordre dans une manifestation mais qui est une contre-manifestation qui est extérieure aux événements. Que se passe-t-il? Eh bien, les antifas, qui sont les miliciens d'ultra-gauche que sont les antifas, décident d'attaquer. Ils attaquent, en fait, le service d'ordre, les jeunes filles, les contre-manifestants, et ils tendent un guet-apens, normalement, pour ce qu'on en sait pour l'instant, à certains de ces jeunes hommes qui faisaient partie du service d'ordre, et ils se jettent à plusieurs sur lui et le battent à mort, je pense que c'est dans la nuit de jeudi, et c'est samedi soir qu'il va rendre son dernier souffle. Donc c'est un homme qui n'était pas connu, qui n'avait pas d'histoire, cette figure, qui était un jeune homme qui était un jeune catholique converti, un militant identitaire, bon, ça était vrai, mais qui n'avait pas d'histoire, et là, qui a été véritablement ciblé par des antifas. Le point commun entre les deux, c'est la violence politique d'ultra-gauche, c'est non seulement ce consentement, mais cette idéalisation de la violence qui peut aller jusqu'à la mort de l'adversaire, parce que dès lors que vous fascisez quelqu'un, dès lors qu'on le nazifie, on se donne le droit de le tuer, et c'est ce qui s'est passé.
Le Figaro ce matin annonce qu'il y a 5 des 6 suspects principaux formellement identifiés liés à l'ultra-gauche, mais plus que ça, plusieurs d'entre eux sont fichés S. Peut-être expliquer fichés S, et ils sont en lien avec ce qu'on appelle la jeune garde. Donc d'abord, fichés S, c'est quoi? Et qu'est-ce que la jeune garde?
Fichés S, ça veut dire qu'ils ont été identifiés par les services de sécurité, les services de protection de l'État, comme des gens qui causent des problèmes sécuritaires à l'État. Donc, globalement, ce sont des individus identifiés comme étant potentiellement très dangereux. Ensuite, la Jeune Garde, c'est une milice officielle antifa, parce que souvent les antifas nous disent on n'est pas structuré, c'est une organisation non organisée, c'est un mouvement autonome qui se fédère selon les crises, mais qui n'a pas de structure formelle. La Jeune Garde, c'est une structure formelle antifa, une milice d'ultra-gauche qui est liée à la France insoumise, qui est un peu l'équivalent de Québec solidaire de chez nous. Et cette milice antifa, hyper violente, qui pratique la violence sous le signe de l'autodéfense, disent-ils ça, parce que pour eux, la société est une immense agression fasciste, donc l'autodéfense, c'est le droit à la privatisation de la violence légitime. Eh bien, ces gens-là ont réussi au moment des dernières élections générales en France, élections législatives en 2024, à faire élire leur président à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnault, qui est donc un député vraiment antifa fanatisé à l'Assemblée nationale en France. Donc, ça nous rappelle, en fait, à quel point les antifas participent plus largement à la dynamique de la gauche. Parce que La droite, on pourrait dire l'ultra-droite, a ses propres bandes militantes et ainsi de suite. Hein. Personne ne dirait le contraire. Mais elles sont toujours répudiées par les partis de droite officiels en disant ces gens n'ont rien à faire avec nous, n'ont rien à voir avec nous. Alors qu'à gauche, ils acceptent cette radicalité militante et violente. Ce qui fait, soit dit en passant, qu'on l'a vu au moment de Charlie Kirk, que certaines personnes se sont réjouies de sa mort, ou à tout le moins l'ont relativisé, ou à tout le moins j'avais entendu cette formule-là quelque part, c'est la mort horrible d'un individu horrible. Eh bien, de la même manière avec Quentin, il s'est fait tuer, et là on en trouve pour dire oui, c'est terrible, mais avec les idées qui sont les siennes quand même, pourrait-on dire que... Donc on est devant des gens qui quelquefois relativisent ou excusent, les pires vont jusqu'à célébrer sa mort.
Et vous avez Mélenchon, qui est le chef du LFI, qui a dit, ben ça c'est un clip qui date de quelques mois, voire quelques années, mais quand même, ce groupe-là est un groupe insoumis. Jeune Garde fait partie des insoumis. Et il a été très relativisant, entre guillemets, dans ses propos. Oui, c'est il est mort, c'est dommage, c'est un jeune, il méritait pas de mourir, mais la réaction de Mélenchon, tu l'as trouvé comment, toi?
Ben, en fait, dans les films, Mélenchon, en ce moment, voit que cette crise-là est telle que ça pourrait entraîner, en fait, son largage à gauche. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche se dit, là, est-ce que c'est pas aller trop loin? Je suis pas certain que c'est ce qui va se passer, mais lui, voit ça comme ça.
Est-ce qu'il est devenu infréquentable, Mathieu? Est-ce qu'il est devenu un peu infréquentable?
J'entends ça depuis des années. Depuis, moi, je suis installé en France en 2021. Et j'entends dire depuis 2021 que Mélenchon est devenu infréquentable. C'est le nouveau porteur des cornes du diabla. C'est lui le nouveau diabolisé. Bon, tout ça, je l'entends. Dans les faits, ça n'a pas empêché en 2022, et encore moins en 2024, la gauche de s'allier avec lui, et même une partie du centre macroniste de faire alliance avec lui. Donc, Mélenchon, on le dit, est fréquentable entre les élections, et ensuite, on accepte de faire alliance avec lui parce qu'il a été décidé que le plus grand mal, c'est toujours, quelles que soient les circonstances, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Extrême droite qu'on ne définira jamais, extrême droite qu'on ne précisera jamais le contenu, mais une fois que vous avez l'étiquette, vous avez le visage du diable. Et à ce moment-là, Mélenchon, on accepte de faire alliance avec lui tout en se pinçant le nez. Donc, est-ce qu'il est devenu infréquentable pour de bon? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, on nous dit qu'il devient infréquentable, puis à la fin, on décide toujours de le fréquenter.
Qu'en est-il du traitement médiatique de cette tragédie?
Alors ça, c'est assez atroce parce que au début, on n'en parle nulle part. Sauf sur CNews, je prends la peine de le dire, parce qu'on a suivi l'actualité là-dessus.
Oui.
Ensuite, ça apparaît. Le sujet est tellement gros, un jeune homme est mort, tabassé, puis les vidéos, la vidéo en plus sort. Hein. Donc on voit à quel point c'est un jeu de massacre. Donc là, le traitement médiatique modifie le récit, notamment l'AFP. Donc là, ça devient, on passe du silence à une rixe. Donc quand on dit une rixe, ça veut dire une bataille entre deux groupes. Donc on cherche à présenter, à dissoudre l'agresseur, les agresseurs et l'agressé dans un même récit où chacun a sa part de responsabilité. Donc là, on nous dit finalement, c'est une bataille, comme il y en a tant entre les extrémistes. J'ai même entendu ça à une radio de Montréal, parce que je ne sais plus quel animateur a cru bon de rapporter les événements, et puis il nous a dit l'extrême gauche contre l'extrême droite se sont battus, l'extrême droite monte, ainsi de suite. Il y a des gens qui devraient quand même faire attention avant de parler de l'international. Il se peut que la lecture des faits leur échappe. Quoi qu'il en soit, donc dans le récit médiatique, il y a cette espèce de volonté de tout noyer dans la rixe. Ensuite, il devient évident que c'est un massacre. Donc là, il y a une nouvelle version, c'est oui, c'est absolument scandaleux cette fois-là, mais n'oublions pas que l'essentiel des violences sont commises par l'ultra-droite normalement. On nous dit ça. On nous dit, on nous fait des listes de l'ultra-droite serait responsable de X nombre de morts depuis X années, mais on nous dit jamais de qui il s'agit, de quelle organisation. Donc c'est une espèce de chiffre, pour l'instant, quand je fouille autour de ça, un peu trafiqué, où globalement, on nous explique que lorsque la droite tue, c'est par vocation, l'extrême droite tue, c'est par vocation, quand l'ultra-gauche tue, c'est par accident. Et aujourd'hui, il y a aussi la diabolisation de Quentin on nous dit oui bon il aurait pas dû mourir certes avec les idées qui sont les siennes franchement ça s'explique. Et moi ce que je vois aussi c'est que sur le service public donc l'équivalent de Radio-Canada en quelque sorte oui. Eh bien on invite comme expert des militants de gauche radicale qui se font passer pour des experts et des universitaires. Et là, eux parlent avec une forme d'autorité savante, alors qu'il s'agit simplement de militants de gauche radicale. On est habitué à ça aussi chez nous.
Le Monde ce matin parle d'un étudiant traditionnaliste au croisement des chapelles de l'extrême droite radicale. L'extrême droite dans laquelle tu as déjà été inclus, tu t'en souviens. Tu te fais extrême droitiser de temps en temps quand même par une certaine gauche.
Oui, enfin, je dirais que qui n'a pas été extrême droitisé un jour a raté sa vie, probablement. On l'a tous. Ce que j'entends, Dominique Morin a été extrême droitisé, François Legault a été extrême droitisé, Paul-Saint-Pierre Plamondon est extrême droitisé, je suis extrême droitisé. En plus, on pourrait ajouter, la liste est longue, Lucien Bouchard, autrefois, et Jacques Parizeau ont été nazifiés par des Canadiens anglais hargneux. Donc, à un moment donné, ce qu'on comprend, ils étaient hitlérisés, faut pas l'oublier. Donc, ce qu'on comprend avec ça, c'est que le mot extrême droite sert à une chose, à envoyer le signal. Vous êtes un infréquentable et contre vous, tout est permis. Vous êtes un monstre et dès lors, on est en droit de vous censurer, de vous bannir juridiquement, de vous frapper s'il le faut, de vous tuer pour les plus extrêmes, pour les plus fanatiques là-dedans. Donc c'est pour ça que ce concept d'extrême droite, moi, c'est un permis de bannir et pour les plus fanatiques, ça devient presque un permis de tuer. Lorsqu'on colle cette étiquette-là à quelqu'un, tout est permis.
Comme la nazification, entre guillemets. On a connu ça ici à Québec lors d'un débat politique avec Bruno Marchand, qui appartient à une certaine gauche, pour faire taire une citoyenne, a dit « Vous avez fait un salut nazi », alors que la citoyenne avait levé son bras dans les airs pour faire une énumération et pour un peu mimer ce qu'un de ses conseillers avait fait. Il l'avait littéralement cancellé et ça a noirci sa réputation. Pour vrai, ça l'a endommagé, clairement, Vicky Lépine, qui poursuit le maire pour près d'un demi-million. Mais la nazification, c'est une forme d'assassinat public, là. C'est comme un peloton d'exécution avec des mots.
Mais moi, j'appelle ça la peine de mort sociale. C'est-à-dire que si on est vraiment devant des fascistes ou des nazis, ben on va pas discuter avec eux, mais si on est vraiment devant eux, sachant ce qu'ils ont fait comme carnage dans l'histoire... Bon. Donc là, dès lors, ce qu'on voit, c'est qu'on fascise et on nazifie pour exclure du périmètre de la respectabilité, pour exclure du périmètre de la conversation démocratique, ceux avec qui on veut pas parler. Bon.
Donc là, le goulag, comme tu avais exprimé dans ton livre.
Oui, totalitarisme sur le goulag. Oui. Donc, moi, je pense qu'on est, à l'échelle de l'histoire, si on fait l'histoire de la pensée de gauche depuis 50 ou 60 ans, la gauche ne cherche pas à argumenter. Elle cherche à nous dire pourquoi on ne doit pas parler avec telle ou telle personne. On ne doit pas adresser la parole à telle personne. Donc, la gauche, son objectif, c'est de reconduire toujours son privilège moral, sa prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, et de sélectionner dans l'espace public les contradicteurs légitimes, globalement ceux qui lui donnent raison tout en disant qu'elle va trop loin. Dès lors qu'on n'accepte pas de jouer selon ces règles-là, on risque l'extrême droitisation, la fascisation, même l'islérisation. Et le problème, c'est que ça fonctionne, parce que c'est intimidant. Qui a envie de se faire coller des étiquettes dégueulasses comme ça? Donc, la plupart des gens se taisent. Or, je pense que de ce point de vue, il faut quand même se durcir un peu, puis développer une saine indifférence devant les accusateurs les plus odieux.
Question sur le Québec. Connaissant la tendance qui se passe aux États-Unis, Antifa, avec Black Lives Matter et tout, les délires qui ont eu lieu, entre autres à Seattle, Portland, etc. En France, le constat qu'on fait, es-tu inquiet pour ton Québec? Et pourquoi?
Je le suis toujours dans les faits, dans nos universités. Alors, le Québec est une société globalement plus apaisée que d'autres. C'est vrai, puis je m'en réjouis. Une fois que c'est dit, je constate que dans nos universités, il y a quand même cette gauche radicale les antifas existent chez nous aussi. Il y a aussi une forme de pression, de terreur morale qui s'exerce dans la vie publique où on traite de fascistes les uns les autres. Je vois des gens, dans le jeu de trumpisation, je veux dire, peu importe ce qu'on pense de Trump, dans l'espace public québécois, on l'a construit comme le diable absolu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, en matière de politique québécoise? On associe PSPP à Trump en le Trumpisant. Le mode, vous êtes aussi odieux que lui. Alors, premièrement, assimiler PSPP à Trump, même sur le plan factuel de ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre, c'est d'une imbécilité terrifiante. Hein? Il faut véritablement être un militant. On peut avoir tous les diplômes du monde. Dans les faits, celui qui dit ça confesse son imbécilité. Deux, quand on comprend le symbole Trump, quand on veut le coller à PSPP, c'est une volonté dans les faits, de nazifier, de fasciser, de trumpiser, dans leur tête, c'est la même chose, les nationalistes québécois, les souverainistes, en nous diabolisant. Donc ça, on voit de quelle manière une certaine gauche morale, qui a accès quand même, ne l'oublions pas, à la radio-télévision fédérale, et qui a accès aussi aux médias, même quelquefois les médias privés, cette gauche radicale cherche aussi chez nous à diaboliser systématiquement. Et en plus, si on élargit le débat au-delà de la seule gauche radicale, je note que la tentation de dire que tous ceux qui sont pas d'accord avec l'idéologie du moment sont des monstres, on le voit dans le débat sur le PEC, par exemple, en ce moment, je distingue les deux, mais c'est pas ceux qui sont contre, par exemple, la fameuse clause grand-père, c'est pas des gens qui voient le monde différemment, ce sont des gens qui seraient indignes, ce seraient des gens qui manqueraient de cœur, ce seraient des gens qui auraient aucun souci pour la parole donnée. Moi, cette manie de moraliser le débat public en disant il y a les bons et les pas bons, les gens et les méchants, je trouve que ça détruit la démocratie.
Mais il y a comme deux Québec en terminant. Il y a le Québec que j'appelle ukamien, donc le Québec montréalisé, ukamien, beaucoup de gauche avec les tenants d'une certaine gauche qui sont de plus en plus vocaux dans les médias nationaux. Mais le reste du Québec que j'appelle le Québec plus raisonnable. Est-ce que j'ai une bonne lecture?
Oui, je te dirais, cela dit, je suis globalement d'accord avec une nuance, c'est que, dans les faits, le discours de la gauche radicale finit par percoler dans l'ensemble de la population. Moi, je vais donner un exemple vraiment qui est banal. C'était, je pense, l'été passé, ou il y a deux étés, je me promène à Outremont, et puis là, une dame m'arrête dans la rue en me disant, monsieur Bocoté, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est compliqué. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai partagé un nouveau texte sur Internet, et puis, je l'ai tout de suite retiré, parce qu'on m'a dit que ça risquait de me causer des problèmes au travail. J'avais pas l'impression qu'on était devant une gauchiste de la pire espèce, manifestement, mais la pression morale était telle qu'elle se dit, il ne faut pas. Donc, je comprends que il y a une forme de nouveau clergé au Québec, en fait, aujourd'hui. C'est le clergé diversitaire, progressiste, multiculturaliste. Et puis, si on ne fait pas les prières qu'il exige, eh bien, on va se retrouver chez les infréquentables, les pas propres et les pas bons. Et ça, de ce point de vue, je pense que ça abîme notre société, ça abîme notre démocratie, ça abîme notre Québec.
Merci beaucoup, Mathieu.
Au grand plaisir. Bye-bye.
Merci. Bye-bye. C'est clair, c'est précis, ça nous aide à comprendre. Mais c'est gros ce qui s'est passé en France, là. T'as vu les vidéos, Dan?
Oui, j'ai vu ça.
C'est un lynchage, ni plus ni moins. Son 6-7, des coups de pied dans la face. Il était déclaré mort à l'hôpital.
On s'en va plus vers là que vers l'autre bord, là, by the way, partout. Ouais, là.
Malheureusement.
Ça revient à ce que je disais tantôt quand j'ai sacré. Là. On refuse de se parler. Les communications sont à zéro. Les gens n'essayent pas de comprendre l'autre, n'essayent plus de comprendre l'autre. Tu sais, je t'ai pas fait entendre aujourd'hui, hier à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, on a lu certains commentaires qu'Elisabeth Lemay a reçus. Tu sais, vous avez le droit de pas être d'accord avec elle, mais d'y souhaiter qu'elle se fasse couper la tête ou d'y souhaiter de la tuer si vous la rencontrez dans une ruelle. Là.
Ça, c'est criminel.
Je sais que c'est criminel, mais il y a du monde qui font ça, Doom. Ils sont pires qu'elle.
Il va falloir à un moment donné réaliser que ce qu'on écrit, ça a du poids, là. Ah, j'ai écrit ça sur Facebook. Ouais, mais c'est des menaces, là. C'est des menaces, puis il y a des conséquences à ça, là. Incroyable.